féminin. Au féminin. Féminin. Féminin.
Chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VO Afrique, Le Monde au Féminin. Nathalie Barge pour vous servir avec moi dans le studio. Passy Moubalama, fondatrice d'Aide Profane, initiative action et développement pour la protection des femmes et des enfants touchés par les conflits. Vous êtes militante pro-démocratie et des droits des femmes en RDC. Un grand merci d'être avec nous, Passy.
Merci Nathalie pour l'invitation.
Vous êtes experte en gestion du développement en droit de la personne et leadership civique. Vous avez reçu en 2014 la bourse Mandela Washington de l'initiative des jeunes leaders africains et en 2018 la bourse Reagan Facel Democracy. Et vous avez fondé également le Centre d'éducation sur la démocratie et les droits de l'homme en RDC pour plaider en faveur du droit des femmes et des enfants touchés par les conflits. Et votre association a publié le rapport Une enfance volée par les trafiquants du sexe en RDC. C'est un état des lieux de l'exploitation sexuelle et autres abus dont sont victimes les enfants, principalement dans le Nord Kivu, d'où vous êtes. Alors, à qui ce rapport est-il destiné?
Merci Nathalie. Le rapport est destiné principalement aux autorités congolaises qui en fait sont censées protéger la population et surtout les enfants vulnérables dus aux conflits armés. Nous pensons que si les autorités prennent le temps de vraiment lire ce rapport, de comprendre le contenu, ils vont comprendre que la situation des enfants dans les territoires de Masisi où nous avons enquêté est très alarmante et en fait qu'il faudrait qu'il y ait des actions qui soient menées pour mettre fin à cette pratique d'exploitation sexuelle des enfants qui est très courante dans les territoires de Masisi, à Rubaya et à Kichanga où nous avons mené notre enquête.
Quelles sont les principales remarques que vous pourriez faire donc sur ce rapport, les principaux constats?
La plupart de ces enfants, en fait, soit vivent dans des camps de déplacés ou dans des familles d'accueil, mais les enfants qui vivent dans des familles d'accueil sont quelquefois, pas tous les jours, mais quelquefois maltraités. Les enfants doivent subvenir à certains de leurs besoins, mais en fait, dans la communauté, il se pourrait, en tout cas par rapport aux résultats de l'enquête, il y a des femmes dans la communauté ou des personnes en fait mal intentionnées dans la communauté qui en fait essayent d'exploiter les sexes de ces enfants pour se faire de l'argent. Mmh. Ce qui est très très triste. Mmh. Ils disent voilà, on va vous donner du travail et avec ce travail vous pourriez acheter des habits, à manger et tout. Ils les mettent dans des maisons qu'on appelle des maisons de tolérance qui en fait deux fois
des maisons de tolérance.
De maisons de tolérance. Et dans ces maisons de tolérance, en fait, on dirait des buvettes où les gens peuvent prendre de la boisson, de la bière et tout. Mais derrière ces maisons, il y a des petites chambres où, en fait, les enfants sont exploités.
C'est dans la presse.
Des groupes congolais, maliens et yéménites ont été ajoutés sur la liste noire de l'ONU d'entités violant les droits des enfants dans les conflits armés, annexé à un rapport du secrétaire général. En 2017, il y a eu une forte augmentation du nombre des violations les concernant par rapport à 2016, s'alarme Antonio Guterres dans ce document. Passy, finalement, c'est un document qui a été fait en même temps que le vôtre, donc des constats qui se rejoignent d'une certaine manière. Donc concernant la RDC, les milices Banamura ont commis des viols, des abus sexuels et des enlèvements, tandis que le groupe Kamuinansapu a recruté et utilisé des enfants à grande échelle, attaqué des écoles et des hôpitaux et commis des enlèvements, indique le rapport. Au Mali, la plateforme qui inclut le groupe Touareg Imgad et leurs alliés et les groupes Gandaizo et Gandakoy recrutent et utilisent des enfants. Il en est de même pour le groupe Yemenite Security Belt Forces. Ce sont tous des groupes d'autodéfense. France. Les cas vérifiés de recrutement et d'utilisation des enfants ont quadruplé en Centrafrique et doublé en République démocratique du Congo par rapport à 2016. Et les groupes djihadistes au Moyen-Orient et en Afrique continuent de recruter et d'utiliser des enfants en s'affranchissant des frontières, conclut le document. Passy Moubalama, on revient sur votre rapport. Quel est le lien entre le milieu minier et l'exploitation sexuelle des enfants? Autrement dit, est-ce que c'est un schéma que l'on retrouve un peu partout autour de ce genre d'activité et pourquoi?
Oui, malheureusement, tous les sites miniers exposent beaucoup plus les enfants à l'exploitation sexuelle parce que généralement, les personnes qui travaillent dans les carrés miniers, en fait, ils essaient de jouer de leur influence économique parce qu'en fait, ils ont beaucoup, beaucoup d'argent et avec leur argent, ils essaient en fait d'abuser de leur pouvoir sur ces enfants qui sont vulnérables. En fait, ils sont vulnérables et ils ont besoin d'argent, ils ont besoin de survivre. Les exploitants, c'est quelquefois les membres de la communauté. On a trouvé dans notre enquête que, par exemple, il y avait certains agents de l'État congolais qui en fait détenaient des maisons de tolérance. Et on pense qu'en fait, il y a beaucoup de facteurs qui font à ce que les gens essaient de rechercher l'argent derrière les sexes des enfants en développant des activités économiques, notamment les restaurants, les bars, les ngandas, et ils utilisent les enfants derrière ces pratiques-là.
En matière de protection de l'enfance, justement, que propose le cadre juridique congolais ?
Normalement, nous avons par exemple la loi sur les violences sexuelles qui est très très sensible par rapport à l'exploitation sexuelle des enfants et punit jusqu'à 20 ans de servitude pénale les auteurs de l'exploitation sexuelle des enfants. Mais malheureusement, pour l'instant, il n'y a aucune action qui est entreprise par les autorités congolaises pour en fait limiter ou mettre fin à cette pratique qui prend de plus en plus de l'ampleur, pas seulement dans la province du Nord Kivu où nous avons enquêté, mais dans les territoires de Beni où à cause de la situation de conflit, en fait, les enfants sont tellement exposés. Donc ça prend vraiment de l'ampleur sur l'étendue de la République.
Parole de femme.
Le Tech Camp, je le dis en anglais, annuel à Lomé, vise à élargir l'horizon des filles en lien avec les technologies de l'information et de la communication, les TIC. Un reportage de Kay Lawson qui s'est rendu à la dernière édition. On l'écoute.
La communauté des Nanatech au Togo vient d'accueillir 32 nouvelles adhérentes. Cette communauté est composée des alumni du Female Tech Camp qui est à sa 5e édition cette année. Nadège Afoutou est la présidente du Female Tech Camp.
Nous avons remarqué que les filles ont une certaine appréhension. Elles avaient construit un mythe autour des TIC. C'est pourquoi, déjà en 2013, nous avons nourri l'idée de les aider à démystifier les TIC et de les aider à acquérir des compétences. Depuis 2014, grâce au TEC, on a pu voir l'émergence de community managers, des infographistes, des photographes, des spécialistes de la vidéo.
Akwa Awuja est de la promotion 2015 de Female Tech Camp.
J'ai eu à découvrir les béabas de ce que c'est que les réseaux sociaux surtout. On nous parle du branding, de e-réputation, etc. Ou des termes comme le social media management ou encore le journalisme web ont été évoqués. Et donc depuis lors, j'ai trouvé une aspiration pour le journalisme web. Du coup, je me suis lancée dans cela, mais sur les questions de développement socio-économique et culturel, d'où le site web et la web TV que j'ai aujourd'hui, Africa Quoi TV.
Pendant ces 4 jours, les participantes apprennent entre autres les métiers du web, le codage et le microblogging, une formation fort appréciée en croire ses participantes rencontrées par VOA Afrique.
Moi, j'ai voulu participer à ce camp parce que depuis toujours, tout ce qui est technologie m'intéresse. Nous avons pu parler de journalisme et aussi de blogging. Donc moi, personnellement, j'ai appris comment créer un blog et comment le gérer aussi.
J'ose dire que les nouvelles informations que j'ai reçues sont vraiment intéressantes. On a essayé de créer déjà notre blog, donc on nous a conseillé de savoir bien écrire.
Pour soutenir la gente féminine dans les domaines technologiques, le gouvernement togolais ne leur dédie pas exclusivement des initiatives, explique à VOA Afrique la ministre togolaise de l'économie numérique, Sina Lawson.
Il y a aussi des initiatives dans le domaine de l'agriculture, par exemple le projet Agri-PME, PME comme porte-monnaie électronique, qui était destiné aux agriculteurs vulnérables, mais qui ont beaucoup bénéficié aux femmes, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait plus de femmes agriculteurs que d'hommes.
Vous pouvez suivre le reportage intégral de Kay Lawson sur voaafrique.com. Passy Moubalama, je voudrais revenir sur les exploitants en particulier. Vous avez fait une enquête, donc vous avez recueilli des informations qui vous ont mené vers des criminels en quelque sorte. Donc est-ce que suivant votre enquête, vous avez alarmé aussi certaines autorités ?
Oui, oui. On est parti, par exemple, voir la chef des divisions provinciales de la justice à Goma pour lui parler de la situation. Parce qu'en fait, cette situation par rapport à l'exploitation des enfants a des conséquences énorme sur les enfants eux-mêmes, parce que quand une enfant est exploitée sexuellement, elle est traumatisée, elle peut être exposée à des cas de grossesse indésirable, de maladies sexuellement transmissibles, le VIH-SIDA. Deux fois, les victimes sont tabassées par ces femmes-là qui les tiennent en otage. Et c'est vraiment des situations traumatisantes.
Donc, il y a des femmes qui participent à cela.
Oui.
Si jeunesse pouvait.
Comment maintenir la jeunesse africaine sur son sol face au phénomène de migration vers le nord? Des jeunes du Mali, du Burundi, du Nigeria et de la RDC se sont penchés sur cette question avec des universitaires à Goma dans le Nord Kivu en RDC. Ensemble, ils ont formulé des recommandations tout en exhortant les dirigeants à plus de responsabilités. Notre correspondant Charlie Kazereka les a rencontrés.
Pour certains de ces jeunes participants à ces colloques, une sorte de civisme africain est nécessaire. Ishara et Tristan, venus respectivement de la RDC et du Rwanda, donnent leurs réflexions.
Chaque chef d'État dans son pays, en Afrique, devrait travailler sur une éducation de civisme africain. Mais aussi, cette éducation doit avoir son impact sur la communication de médias. Parce qu'aujourd'hui, les médias africains nous montrent toujours que l'Europe, c'est le paradis et que l'Afrique, c'est l'enfer.
Si les jeunes prennent tous ces risques-là, pour aller en Europe, même les risques de mourir, c'est parce qu'ils n'ont pas vu un environnement positif à leur développement. Et puis, je me dis que ça se joue sur l'image qu'on montre de nos pays, de l'image qu'on montre de nos continents.
Qu'est-ce qui manquerait aux dirigeants africains pour maintenir sa jeunesse? Faïda Mwangilwa, une ex-ministre de la RDC, de la condition femme, famille et enfants, donne ici son point de vue.
J'ai l'impression, et ça par rapport à mon expérience, j'étais dans les institutions, je réalise qu'il y a beaucoup plus d'égoïsme. Ce qui nous manque, c'est plus la responsabilité collective.
L'Afrique perd et perdra encore plus si l'on n'inverse pas vite la tendance, explique Ambroise Dokouo, chercheur en anthropologie venu du Mali.
Le premier niveau, c'est la question de la gouvernance. Vous prenez le cas du Mali, vous avez 300 000 jeunes qui sortent chaque année des universités. Très peu ont accès à l'emploi.
Même si cette migration ne peut plus être stoppée, il est plutôt important de la régulariser, estime Néné Moricho, directeur de l'Institut de recherche scientifique pour l'Institut de Goma.
Avec tous les jeunes qui meurent dans la mer, il faut en parler. Et je pense aux organisations comme Paul Institute d'éveiller les consciences des autorités pour qu'ils prennent conscience, pour créer des opportunités économiques et que ces jeunes puissent rester au pays.
La lutte est rude face aux opportunités utopiques du Nord, mais il est important aujourd'hui que cette question soit disputée dans les grands salons africains. Charlie Kasereka pour VOA Afrique à Goma.
Mais oui, et si la jeunesse pouvait?
I wanna feel all the sun.
écouter le Monde au féminin avec comme invité Passy Moubalama, militante des droits des femmes et des enfants en République démocratique du Congo. Passy, vous dites dans votre rapport finalement, mais ça c'est quelque chose que l'on retrouve partout, c'est la peur de dénoncer. Donc comment contrecarrer cette peur de dénoncer de la victime?
La communauté doit comprendre le risque qu'il y a en n'est pas dénoncer cette situation des enfants, d'exploitation des enfants. C'est vrai qu'il y a une certaine peur par rapport aux victimes, parce qu'en fait les auteurs, des fois ils sont armés, ils ont beaucoup de pouvoir, et les victimes se disent, si on dénonce, on peut risquer à perdre nos vies, on peut risquer à beaucoup de choses. Mais nous pensons que garder silence par rapport à une telle situation, c'est très 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 grave. Mmh, et que c'est l'avenir des enfants qui est en train d'être coupé en mille miettes, en mille morceaux. Tout le monde devrait être sensible par rapport à cette situation et se dire... Non, on doit arrêter, on doit stopper cette situation d'exploitation des enfants, parce qu'en fait, si ces enfants sont exploités aujourd'hui, c'est leur avenir qui est détruit.
Entre parenthèses.
Un autre reportage, cette fois-ci un reportage de notre correspondant dans le Sud, qui vous, Ernest, vous avez entendu tout à l'heure Charlie à Goma, ouais. Vous connaissez très bien. Alors dans l'Est de la RDC, les travailleurs de Twangiza Mining, filiale de la société minière canadienne Banro, ont soutenu plus de 300 personnes vulnérables, dont des orphelins vivant près de la mine d'or, notamment dans la chefferie de Louindja, à une centaine de kilomètres de Bukavu, donc dans le Sud Kivu. Ernest Mouero a fait le déplacement. Voici un extrait de son reportage.
À travers la main de compassion de cette filiale de Banro Corporation, l'orphelinat de Kaziba qui encadre 50 orphelins et l'association APEF, Action pour la promotion de l'enfant et de la femme, qui encadre 177 enfants et femmes sortis des carrés miniers, ont reçu chacun 2 vaches, 10 porcs et 10 chèvres avec une enveloppe supplémentaire de 1000 dollars pour le cas de l'orphelinat. Le directeur général de Twangiza Mining a remis une enveloppe de 1000 dollars à l'hôpital général d'Ifendula pour payer les frais des soins et hospitalisation des malades indigents, en plus de 100 kilos de vivres et nourriture remis à chaque malade hospitalisé. L'une d'elles, Madame Généreuse Namburu Nyabadé, s'exprime.
On nous a donné de quoi manger, on a même payé nos factures de soins. Pour cela, je remercie notre roi qui a porté nos difficultés à Banro. Je suis reconnaissante vis-à-vis de Twangiza Mining qui a pensé à nous les moins nantis, car très souvent nous sommes complètement oubliés.
Pour encourager la jeunesse locale, un championnat de football a été organisé. Vainqueur 10 matchs, l'équipe des jeunes de Louindja qui a battu les travailleurs de Twangiza Mining sur le score de 3-2. Pour la députée provinciale élue de Bukavu, Kinja Mwindanga, de tels rapprochements entre la compagnie et la population sont de nature à favoriser un bon climat. Depuis un temps, les filiales de Banro Corporation à l'est de la RDC sont victimes d'attaques et sabotages des bandes armées, particulièrement la filiale Namoya Mining à Salamabila dans la province du Maniema. La mine d'or de Twangiza, située dans la chefferie de Louindja en territoire de Mwindanga, produit entre 6 000 à 10 000 onces d'or le mois. Ernest Mouero à Louindja pour VOA Afrique.
Passy Moubalama, est-ce que vous auriez un témoignage à nous citer, un témoignage d'enfant qui aurait été victime donc d'exploitation sexuelle, qui vous a particulièrement frappé, parce que j'imagine que vous en avez rencontré plusieurs lors de votre enquête?
Exactement, on a beaucoup de témoignages. Je me rappelle de ces témoignages-là de la petite fille de 14 ou 15 ans. En fait, la dame lui a promis de lui donner du travail parce qu'en fait, elle vivait dans une famille d'accueil. Mais dans la famille d'accueil, elle était maltraitée et elle n'avait pas, par exemple, droit au manger comme tous les autres enfants dans la maison. Et quand cette dame-là lui a proposé de venir vivre avec elle et de lui donner du travail, elle était comme, oh oui, ça c'est vraiment une bonne opportunité. Mais quand elle est arrivée à son lieu de travail, la maman lui a montré un autre visage. Elle lui a dit, le travail qu'on vient de te donner, c'est de servir dans ces restaurants, mais en même temps de t'occuper des clients que tu vois dans le restaurant. Et quand on lui donnait l'argent, cet argent-là, on le donnait directement à la maman. Et la maman, quand elle voulait donner juste un petit rien à l'enfant, mais le reste...
Ce sont des maquerelles, hein, appelons-les, ouais, telles, ouais, qu'elles le méritent.
Le gros de l'argent, la maman gardait et tout. et l'enfant, des fois quand elle refusait, elle pouvait être battue, torturée, elle ne pouvait pas quitter cette maison-là.
La responsabilité des compagnies minières dans cette affaire, selon vous?
Je pense que les compagnies minières devraient prendre conscience, en fait.
Comme un petit peu dans ce reportage-là d'Ernest, c'est-à-dire s'assurer que tout se passe bien autour de soi.
Oui, parce qu'en fait, il y a beaucoup, beaucoup de violations de droits de l'homme qui sont commises dans les carrés miniers ou aux alentours. Et en tout cas, la vie de la population autour des carrés miniers est très critique. Par exemple, si tu vas à Massissi, spécifiquement à Roubaix, c'est un village, quand tu vois les collines et tout, c'est très joli. Mais la misère dans laquelle vit la population, c'est déplorable. Moi, je pense que les compagnies minières devraient avoir honte, qui peuvent gagner de l'argent au détriment en fait de la population.
Logiquement, ces compagnies minières devraient apporter, en même temps qu'elles sont ici, la prospérité, hein, comme on le dit. Elles apportent de l'emploi, mais logiquement, ça devrait servir un petit peu à tout le monde.
En développant de projets de développement, peut-être qu'ils le font avec le gouvernement. Mais en tout cas, la population au niveau de la base ne bénéficie pas en fait de toutes ces ressources en fait que nous avons dans le pays. Et je pense que les compagnies minières ont la responsabilité d'assurer en fait qu'ils peuvent contribuer au développement des pays en fait où ils sont en train d'exploiter les minerais, ce qu'ils ne font pas malheureusement.
Quelles recommandations vous faites donc à l'issue de ce rapport et à qui les faites-vous en particulier?
Une première recommandation, c'est au gouvernement congolais, premièrement, de démanteler en fait ces réseaux où il y a toutes ces maisons de tolérance très reconnues par les autorités mais qui ne sont pas fermées. Je pense qu'il faut fermer ces maisons pour limiter ou arrêter avec ces pratiques d'exploitation des enfants. Des deux, par rapport à la justice, nous avons de lois. La RDC a ratifié plusieurs textes nationaux et internationaux, notamment la convention relative à la protection des droits des enfants. Je pense qu'on doit mettre en pratique ou appliquer cette loi-là pour faire à ce que nous puissions protéger les enfants. Sinon, ça ne sert à rien d'avoir de loi qui, en fait, ne protège pas les enfants. Et donc, je demanderai aux autorités congolaises de faire tout, en fait, pour que ces lois que nous avons dans le pays soient protégées. De sanctionner, selon la loi congolaise, les auteurs de l'exploitation sexuelle. Et, parce qu'en fait, je me dis, si les auteurs sont punis, sûrement que les autres personnes mal intentionnées qui voudraient créer et recréer d'autres réseaux, d'autres maisons de tolérance, ils vont avoir peur. Et je pense que c'est dans ce sens-là, en punissant les auteurs de l'exploitation sexuelle sensiblement, fortement, que nous pouvons réduire en fait la pratique de l'exploitation sexuelle des enfants. Aux compagnies minières, bien sûr, de se rassurer que dans les carrés miniers, que les droits humains soient respectés, que les droits des enfants soient respectés. Par exemple, le travail des enfants, cette exploitation des enfants, c'est vraiment des choses très, très choquantes. Ça ne sert à rien de se taper de milliers de dollars si, en fait, il y a des gens qui meurent derrière. Et pour moi, les enfants qui sont exploités sexuellement, c'est tout un avenir d'un pays, en fait, qui est en train de tomber, quoi.
Donc, un gros travail, n'est-ce pas, de lutte contre l'impunité, comme chacun le sait. Passy Moubalama, un grand merci pour cet éclairage sur la situation des enfants dans l'Est de la RDC. Un grand merci également à Fredner Kayemit à la production, ainsi que Wagner Robert à la production également. Et le plus grand des merci à tous nos auditeurs, à toutes nos auditrices. À très bientôt. Au revoir.
Arrête.